Europe Midi, Romain Desarbres.
12h30, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Comment traiter la petite délinquance? Le ministère de la Justice remplace le rappel à la loi par un avertissement pénal probatoire. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On verra ça avec Gladys Laffitte. Un cortège de mariages qui dégénère dans le Val d'Oise ce week-end, ce n'est malheureusement pas rare. On va vous raconter ce qui s'est passé, puis on sera en direct avec le maire de Méry-sur-Oise. La grève chez SOS Médecins, pourquoi? Quel impact sur les malades? On verra comment ça se passe dans le Var, où l'on appellera Frédéric Michel, notre envoyé spécial. Et puis Éric Zemmour dit que les Républicains ont trahi De Gaulle et qu'en substance, la droite, c'est lui. Il l'a dit sur Europe 1 et CNews hier matin et à la journée du conservatisme hier après-midi. Éric Zemmour veut-il torpiller la droite classique? Je poserai la question à Jacques Seret. Vous connaissez le rappel à la loi. Quand un délinquant se faisait arrêter, il passait dans le bureau d'un magistrat qui lui rappelait la loi et le sermonnait. Bonnes intentions, mais efficacité limitée vu le nouveau profil des interpellés. Ça va donc être remplacé par un avertissement pénal probatoire. Gladys Laffitte, du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Gladys. Vous avez des informations. Qu'est-ce que ça va changer?
Eh bien, le vrai changement, c'est que lorsque cet avertissement pénal probatoire sera prononcé, une période d'un an va s'ouvrir pendant laquelle, si une autre infraction est commise, la personne sera poursuivie pour les deux infractions. C'est une sorte de sursis, de mise à l'épreuve. Concrètement, cela veut dire que, informatiquement, le dossier sera toujours en cours aux yeux des magistrats et non classé. Avec le rappel à la loi, le procureur pouvait toujours rouvrir la précédente procédure, mais dans la pratique, ça ne se faisait jamais. Il y aura maintenant une obligation de poursuite. Alors cet avertissement pénal probatoire, ce ne sera possible que si la personne reconnaît sa culpabilité et si elle n'a jamais été condamnée. En sont exclus les délits ou violences contre les forces de l'ordre ou les élus. Autre changement, ce ne seront plus les policiers qui prononceront ces avertissements, comme c'était le cas à hauteur de presque 70% selon des chiffres de 2019, mais uniquement les procureurs ou bien les délégués du procureur. C'est donc un transfert de charges qui sera financé par l'augmentation du budget justice. Voilà, tout cela va demander un petit peu de temps de mise en place puisque cette nouvelle mesure n'entrera en vigueur qu'en janvier 2023. Le temps aussi d'arrêter petit à petit les rappels à la loi.
Merci beaucoup Gladys Laffitte. C'est vrai que c'est très clair. Avant, avec les rappels à la loi, le dossier était clos. Au revoir monsieur, merci. Voilà, le jeune était passé dans le bureau du juge et le dossier était clos. Là, le dossier restera ouvert pendant un an. On verra si ça changera quelque chose. Merci beaucoup Gladys. Un cortège de mariages qui bascule dans la violence. Ça s'est passé à Méry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. C'est au nord-ouest de Paris. Océane Théard, racontez-nous ce qui s'est passé exactement.
Eh bien, tout aurait commencé samedi, en milieu d'après-midi. Une centaine d'invités du mariage au volant de voitures de sport bloquent la circulation sur l'autoroute 16, puis sur la départementale 44. Des gendarmes se mettent à les suivre, mais le cortège continue sa route. Direction le centre-ville de la petite commune de Méry-sur-Oise. À nouveau, les invités bloquent la circulation sur une des avenues principales. C'est là que la situation dégénère. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des projectiles, des chaises, des cendriers d'un bar voisin commencent à voler. Les militaires répliquent avec du gaz lacrymogène. Du renfort est alors envoyé sur place. Les passants, eux, slaloment entre les voitures pour fuir la zone. Le calme est ensuite revenu aux alentours de 18h. 4 gendarmes auraient été blessés, 3 véhicules endommagés. D'après la gendarmerie du Val d'Oise, le cortège, lui, a repris sa route vers la commune de Méru, à une vingtaine de kilomètres de là.
Merci beaucoup, Océane, pour toutes ces informations. On est en direct avec le maire de Méry-sur-Oise. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est calme, Méry-sur-Oise, d'habitude. Mais là, c'était vraiment la foire d'empoigne, hein?
Ah ben, Méry-sur-Oise est une petite commune du Val d'Oise de 10 000 habitants tout à fait paisible d'ordinaire. D'ailleurs, je venais juste de terminer de célébrer un mariage dans des conditions tout à fait ordinaires lorsque, effectivement, cet événement tout à fait inattendu est survenu sur notre carrefour de centre-ville et a assez rapidement tourné à l'insurrection.
Comment est-ce que vous avez été prévenu, vous ?
Ah ben moi, je sortais du mariage que je venais de célébrer, donc j'étais sur le parvis de la mairie, quand j'ai vu arriver le cortège de voitures de luxe avec les jeunes qui vociféraient et qui se sont arrêtés au carrefour de centre-ville. Donc j'ai assisté en direct à la formation de l'événement, au blocage de la circulation et à l'intervention des premiers gendarmes qui ont tout de suite été pris à partie par les hordes de jeunes, ce qui a entraîné une situation qui a dégénéré dans des proportions, je dois dire, assez hallucinantes.
Assez hallucinantes. Mais vous êtes le maire, vous n'êtes pas dit à un moment, tiens, je vais essayer de les raisonner, ces jeunes, on pouvait pas, enfin, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que jeunes c'est un peu facile, mais ces individus violents, on ne pouvait pas les raisonner ?
C'était tout à fait impossible parce que c'était un cortège d'une vingtaine de véhicules. Il devait donc y avoir à peu près 80 personnes faisant la fête au carrefour de centre-ville et qui n'avaient manifestement pas l'intention de bouger du tout. Et lorsque les premiers gendarmes de la gendarmerie de Méry-sur-Oise sont intervenus, ils ont été immédiatement pris à partie par des jeunes qui ne demandaient qu'à en découdre et à casser du gendarme. Donc il était totalement exclu que le maire de Méry lui-même puisse calmer la situation. C'était pas possible.
Ce qui est fou, c'est que généralement, un mariage, ça se passe bien. Qui étaient ces individus violents ? Qu'est-ce que vous en avez vu ?
Écoutez, c'était un mariage, on va dire, communautaire, parce que ils agitaient des drapeaux de leur pays d'origine, qui étaient des pays africains ou du Maghreb, ben voilà, et l'information que j'ai, c'est qu'ils venaient de la commune de l'Oise de Méru, et ils sont assez coutumiers du fait, en réalité, et il se trouve qu'à Méry-sur-Oise, on a un très beau château avec un grand parc où les mariages ont l'habitude de venir prendre des photos, et c'était manifestement le lieu de leur rendez-vous pour samedi après-midi.
Comment ont réagi les habitants de Méry ?
Ils étaient comme moi éberlués. Alors, d'abord, on se tenait soigneusement à l'écart parce qu'effectivement, comme votre journaliste l'a dit, les chaises volaient, les gaz lacrymogènes étaient utilisés par les gendarmes mobiles qui n'avaient plus que cette situation pour calmer les ardeurs de tous ces jeunes. On a quand même eu une bonne quarantaine de gendarmes mobiles qui sont intervenus pour rétablir la situation. Donc nous, on était soigneusement à l'écart et tout le monde était éberlué de la situation. C'est vrai qu'à Méry-sur-Oise, on ne s'attendait pas à voir des gaz lacrymogènes. Et c'est bien la première et j'espère la dernière fois que ça nous arrive.
Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le maire, Pierre-Édouard Réon, d'avoir témoigné dans Europe Midi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon après-midi à vous. On connaît tous leurs voitures blanches siglées SOS Médecins. Vous n'allez pas beaucoup les voir aujourd'hui. Les médecins de SOS Médecins sont en grève. Ils estiment qu'en réalité, le gouvernement veut en finir avec les visites à domicile. Frédéric Michel dans le Var à Fréjus-Saint-Raphaël. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Comme partout en France, impossible de joindre SOS Médecins dans le Sud. Hein.
Effectivement, une grève de 24 heures jusqu'à 8 heures demain matin. Le malaise est profond, hein, comme ici à Fréjus-Saint-Raphaël. L'association SOS Médecins dénonce le mépris des pouvoirs publics. Le tarif conventionnel ne correspond plus à l'engagement de ces hommes et femmes qui ont fait le choix de l'urgence à domicile, de jour comme de nuit. Écoutez le docteur Raphaël Gable qui préside l'association.
De 8h à 20h en semaine, c'est 35 euros. Quand on enlève les charges, etc., il ne reste plus beaucoup. Il faut revaloriser à hauteur de 57,60 euros, comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire. Voilà.
D'autant que ces interventions à domicile sont en général plus longues qu'une consultation classique, plus technique. Les praticiens voient donc logiquement moins de patients. Et c'est le modèle économique de l'association SOS Médecins qui est aujourd'hui en péril.
À moyen, long terme, c'est une pratique qui va mourir si rien n'est fait, puisqu'on n'arrive plus à trouver tout simplement des médecins qui veulent faire ce métier, qui veulent faire des visites à domicile. Les médecins traitants, la plupart du temps, diminuent ou arrêtent leurs actes de visite puisqu'ils sont débordés en consultation. Il y a tout un tas de personnes, je pense aux personnes âgées isolées, ou même aux mères de famille isolées, ou des personnes handicapées, qui n'ont pas d'autre choix pour voir un médecin, de nous voir nous, ou alors se déplacer en ambulance. Enfin, c'est quand même un paradoxe.
Un exemple, ici à Fréjus-Saint-Raphaël, sur 10 praticiens de l'association SOS Médecins, 4 vont changer d'activité à la fin de l'année et il n'y a qu'une seule recrue pour l'instant.
Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations. Alors, vous ne pouvez pas appeler SOS Médecins, ça ne répond pas, c'est la grève. Mais attention, s'il y a une urgence, vous appelez le 15 ou le 18, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers. Vous savez, évidemment, vous connaissez ces numéros, c'était bon de le rappeler. Merci Frédéric. Il est 12h39, dans un instant, cette annonce faite par le président de la République qui va accroître l'attractivité du métier de serveur. Les pourboires payés par carte bleue seront défiscalisés. Pas d'impôt sur les pourboires. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h42, c'est l'heure. Emmanuel Macron se met à table. Le président de la République est au Salon international de l'hôtellerie et de la restauration. Parmi les sujets importants, il y a l'attractivité du métier de serveur. Certains restaurants ne peuvent pas tourner à plein parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, à embaucher des serveurs. Et il y a eu cette annonce faite par Emmanuel Macron il y a quelques instants. Désormais, les pourboires payés par carte bleue seront défiscalisés. Alors, pas si vous laissez 2 euros sur la table, pas si vous laissez une pièce sur la table, mais bien si vous payez par CB. Jean-Luc Boujon, sur place à Lyon. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Romain.
Ça va sérieusement augmenter la rémunération du personnel ?
Et c'est exactement le but de cette nouvelle mesure qui doit entrer en vigueur dans les prochains mois. Il faut motiver les personnels qui se sont éloignés de la restauration avec les fermetures d'établissements dues à la crise sanitaire à revenir en cuisine et en salle, car la situation est vraiment très compliquée dans les restaurants, explique le chef lyonnais Christian Tête-d'Oie.
Moi, pour être très concret, sur 75 personnes au restaurant Tête-d'Oie, il m'en manque 22. Ça fait partie effectivement des mesures qu'on attendait. Cette crise nous a énormément impactés et donc nous avons besoin de revaloriser les salaires de nos collaborateurs et donc ça va participer justement à cela.
Donc très bientôt, le pourboire sera possible par carte bleue et totalement simplifié, a expliqué le président de la République.
Nous avons décidé que ces pourboires soient sans charge pour les employeurs que vous êtes et que ces pourboires soient sans impôt pour les salariés qui les reçoivent. Donc honnêtement, c'est que du positif.
Une simplification bienvenue, estime Romain Vidal, restaurateur au Sully à Paris, car elle va permettre de revaloriser ces fameuses rémunérations.
Si passer par une carte bleue ou une application, c'était flou et beaucoup refusé. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va augmenter automatiquement le pouvoir d'achat. Parce que malheureusement, ça limitait les pourboires, se diminuaient de plus en plus parce qu'ils n'avaient que des cartes bleues, les gens ont payé via des applications.
Alors des restaurateurs qui sont satisfaits mais qui aimeraient quand même que le président et le gouvernement aillent encore plus loin en matière de baisse des charges pour là encore faire face à cette pénurie de main-d'œuvre.
Jean-Luc Boujon à Lyon. Merci beaucoup Jean-Luc. 12h44, on part à présent en Allemagne au lendemain des élections législatives. Il va falloir négocier pour former un gouvernement de coalition. Avant de retrouver Hélène Kohl en direct de Berlin, j'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit ce matin Olaf Scholz, le candidat du SPD, on va dire la gauche allemande, qui a pris la parole. Écoutez.
Nous serons très rapides dans cette négociation. Nous devrions nous être mis d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement avant Noël. L'Allemagne a toujours eu des gouvernements de coalition et ces coalitions ont toujours été stables.
Voilà, il a tenu à rassurer, il y aura un gouvernement de coalition stable. Hélène Kohl en direct de Berlin. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Olaf Scholz donc a pris la parole, il était aux alentours de 11h. Il a tendu la main aux Verts et aux libéraux pour former cette coalition, hein.
Oui, une apparition devant la presse ici au siège du SPD à Berlin avec ce ton monotone qu'on lui connaît bien mais toujours extrêmement précis dans le choix de ses mots. Il veut avoir une majorité stable avant Noël si possible. Ce sera donc ce qu'on appelle ici une coalition du feu tricolore selon les couleurs des partis qui le constitueraient. Le SPD rouge, les libéraux jaunes et les écologistes verts. Cet attelage a été déjà au pouvoir dans plusieurs régions. Il a même été réélu au mois de mars dernier en Rhénanie-Palatinat. Et ça compte forcément dans un pays fédéral comme l'Allemagne. Il faut noter que pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne, on aura besoin de 3 formations politiques pour atteindre une majorité. Et il est en train de se passer quelque chose de tout à fait notable ici. C'est que les Verts et les libéraux veulent parler d'une seule voix face au SPD. Ils l'ont annoncé ce matin. Ils vont d'abord discuter ensemble à deux pour se mettre d'accord sur ce qui leur semble le plus important. Et ensuite seulement, ils étudieront les propositions d'Olaf Scholz d'égal à égal, puisque ces deux petits partis, entre guillemets, pèseront alors plus lourd que le SPD.
Hélène, le candidat de la CDU et de la CSU, Armin Laschet, il n'a aucune chance d'être chancelier ?
Alors sur le papier, c'est possible. En théorie, la constitution allemande indique que le chancelier, c'est celui qui bâtit une coalition, pas celui qui gagne les élections. Mais la dynamique du scrutin est assez claire. La CDU chute absolument partout. Elle perd des circonscriptions emblématiques, comme celle d'Angela Merkel. Le candidat, Armin Laschet lui-même, est arrivé derrière les Verts, chez lui à Aix-la-Chapelle. Ce matin, il y a eu une réunion de crise au siège de la CDU à Berlin. Visiblement, ça a été assez houleux entre les barons conservateurs. Armin Laschet est sous pression. Il a affirmé hier qu'il voulait tout faire pour former un gouvernement. Ce matin, plusieurs présidents de région lui ont fait comprendre que c'était un aveuglement absurde. La CDU va-t-elle finalement choisir l'opposition ? Ça serait peut-être le seul et unique échec d'Angela Merkel, ne pas réussir sa succession.
Merci beaucoup Hélène Kohl, merci pour ces informations et cette analyse. En direct de Berlin, pour Europe Midi. La droite, c'est moi, c'est en substance ce que dit Éric Zemmour qui était hier matin sur Europe 1 et CNews et hier après-midi à la journée du conservatisme. Il s'en prend aux Républicains qui auraient, je cite, trahi De Gaulle. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être payante ?
Oui, après avoir attaqué Marine Le Pen qui selon lui n'a aucune chance de gagner, Éric Zemmour s'emploie donc à une nouvelle stratégie. Dans son viseur, la droite et les Républicains. Exercice de torpillage pour le polémiste hier matin sur notre antenne.
Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant ? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Mais...
Bousculer une droite qui se cherche encore un candidat, pour Éric Zemmour, l'enjeu est de taille, élargir son spectre électoral, montrer qu'il ne chasse pas seulement sur les terres de l'extrême droite. Éric Zemmour le sait, il a une marge de manœuvre, une carte à jouer auprès des électeurs des Républicains. Le mois dernier, une centaine de jeunes militants et sympathisants LR avaient signé une tribune pour appeler à ce que le parti soutienne la candidature du polémiste. Pour lui, il s'agit donc aujourd'hui de montrer que finalement, il ne serait pas si extrémiste que cela, que ses idées pourraient s'inscrire dans une certaine continuité du général de Gaulle. En somme, une tentative de dédiabolisation, tout en s'affirmant comme un candidat naturel pour la droite.
Jacques Serret, merci Jacques. Et justement, tiens, cette déclaration de Jean-François Copé, il y a quelques instants, Éric Zemmour tient, je cite, un discours d'extrême droite, a dit Jean-François Copé, il a appelé la droite à tenir bon et à exclure toute alliance avec le polémiste. Voilà ce que dit Jean-François Copé. 12h48, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. La crise de la Covid a affecté de nombreux Français en termes de santé mentale. On va voir ça dans un instant avec un médecin, avec un psychiatre. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h51. Est-ce que la crise de la Covid vous a affecté psychologiquement ? Je vous pose la question parce que s'ouvrent aujourd'hui les assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Et on est en direct avec le docteur Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour docteur.
Bonjour.
Ce qui me frappe, c'est l'état de santé mentale des Français. 30% des moins de 24 ans ont eu des pensées suicidaires ces derniers mois. Est-ce que ça vous étonne, vous ? Comment est-ce que vous appréciez ces chiffres ?
Ça m'étonne, oui et non, et ça, en tout cas, ça me préoccupe. C'est-à-dire que, effectivement, à cet âge-là, l'environnement joue beaucoup. L'environnement passé, c'est-à-dire le milieu dans lequel on a grandi, mais l'environnement actuel. Et l'environnement actuel, il s'est quand même massivement dégradé. Et on comprend que ça puisse affecter l'optimisme des personnes et la capacité à se projeter dans le futur.
Dans le futur. Qu'est-ce qui a été le plus dur ces derniers mois ? C'était le confinement, le fait de ne pas pouvoir voir la famille. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre ?
Bah, c'est peut-être le décalage entre les contraintes qui ont été imposées et l'évaluation par la personne de ses propres ressources. Donc c'est-à-dire que finalement, il y avait des contraintes et la personne se sentait démunie. Donc il y a eu, ça s'est passé en plusieurs temps, mais l'isolement, le sentiment d'impuissance, le sentiment que ça n'en finirait pas. Et puis alors qu'on a des signaux plutôt positifs, on n'arrive pas à apprécier ces signaux comme positifs parce qu'il y a un effet cumulatif de tous ces facteurs de préoccupation.
Est-ce que la bonne santé mentale peut revenir aussi vite qu'elle a disparu ?
Alors, sur le sondage, notamment chez les jeunes, effectivement, des signaux positifs, un élan, on va dire, une solidarité et d'optimisme supplémentaire, peuvent rapidement modifier la donne. Mais ce ne sera pas que du discours, il faut que ça s'accompagne par des faits. On peut projeter positivement certaines choses, mais il faut que les choses se décantent positivement, que ce soit scolairement, professionnellement. C'est-à-dire que si c'est juste dans la pensée, ça ne suffira pas.
Merci beaucoup docteur Ferreri, en direct avec nous dans Europe Midi. Merci docteur, bon après-midi à vous. Cette information qui tombe à l'instant, le président de la République a été visé par un jeune homme qui lui a lancé un œuf. Jacques Serret, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ?
Alors Emmanuel Macron se trouvait au CIRA, le grand salon de la gastronomie à Lyon, et il y a quelques minutes, pendant ce journal, le chef de l'État effectuait un bain de foule, il serrait des mains, il rencontrait les passants, et c'est là, à ce moment-là, qu'il a été visé par un jet d'œuf, mais 1939 ne s'est pas écrasé sur lui et a rebondi sur son épaule. Le costume du président n'est pas taché.
Voilà, et la personne qui a jeté cet œuf a été exfiltrée par les services de protection du président de la République, par la police, bien sûr. On va vous tenir informés, évidemment. Allez, le sport, le football, PSG, Manchester City au Parc des Princes demain soir. Événement sportif à vivre dès 20h sur Europe 1. Cyril de la Morinerie au Camp des Loges. Cyril a assisté, vous avez assisté aux 15 premières minutes de l'entraînement. Comment va Léo Messi ?
Écoutez, Léo Messi va bien comme hier. Il a participé à l'entraînement collectif du PSG. La star aussi Ballon d'Or était d'ailleurs le premier à fouler le rectangle vert ce matin. Un Léo Messi que j'ai vu souriant, appliqué, qui s'est immédiatement échauffé. Le maestro a fait des courses entre les piquets, donnant l'impression que son coup au genou reçu le week-end dernier était un mauvais souvenir. Sauf surprise, Lionel Messi, absent lors des deux derniers matchs, devrait figurer dans le groupe pour le choc face à City. L'attaquant de 34 ans a ensuite multiplié les passes avec les autres stars de l'effectif, notamment André Di Maria et Marco Verratti. L'Italien, absent depuis le début du mois, lui aussi en raison d'un souci au genou, a échangé des passes avec ses coéquipiers. Quant à Neymar et Mbappé, ils ont affiché aussi une belle complicité, loin de l'image qui a circulé samedi dernier lors du match PSG-Montpellier. Mbappé semblait agacé que le Brésilien ne lui passe pas assez le ballon. Un entraînement suivi de très près par Leonardo, le directeur sportif, mais aussi le président Nasser Al-Khelaifi. Cet après-midi, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s'exprimera devant la presse.
Cyril de la Morinerie au Camp des Loges. Notez bien, demain, ça sera, cette soirée foot sera à vivre dès 20h sur Europe 1. Le temps, tout de suite.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo avec Anissa Haddadi. Anissa, les pluies de ce matin avancent vers l'est.
Oui, alors cet après-midi, le front froid et pluvieux va concerner les Ardennes, la région parisienne, la Bourgogne et le Val-de-Saône. On en a fini pour les régions qui se trouvent dans le nord-ouest. La bonne nouvelle, c'est le retour du soleil en Bretagne, en Normandie et sur les Pays de la Loire, avec toujours un gros coup de vent de la pointe bretonne jusqu'aux Hauts-de-France. Le long des côtes de la Manche, on a ce vent d'ouest qui souffle jusqu'à 100 km/h en rafale. C'est le premier gros coup de vent de la saison. Sur la moitié sud, là, le soleil reste bien présent. C'est vrai qu'on a une journée plutôt agréable sur la moitié sud après un week-end qui a été très pluvieux. En Aquitaine et en Occitanie, on a quelques nuages qui se développent, un peu plus épais qu'ailleurs, avec des petites gouttes, des averses possibles sur le Pays Basque par exemple. Les températures, c'est comme dans le ciel, elles sont plus douces dans le sud que dans le nord. On a 29 degrés cet après-midi à Perpignan, 28 pour Carcassonne, 27 à Bastia et à Marseille, 25 pour Gap et Grenoble, 24 à Saint-Étienne et à Nice. Il fait un petit peu plus frais dans le nord avec 20 degrés à Paris, 19 à Lille et 18 pour Brest.
Merci Anissa, 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1.